Bonsoir à tous amis auditeurs et bienvenue dans Rock Intimity. Ce soir à la découverte du groupe Eywar, un groupe de pagan war trans viking absolument fantastique. Nous avons eu la chance d'avoir en interview le duo au complet. Je vous souhaite à tous une excellente découverte.
Alors ma première question déjà c'est d'où vient le nom Eywar et comment s'est formé le clan en fait.
Ok, alors le nom Eywar c'est une combinaison de la rune Eywaz, qui est la rune de Lif, de l'arbre Lif, et qui est aussi dans ma perception de la lecture des runes que je pratique régulièrement. C'est vraiment une question de prudence et de concentration avant l'action, et j'aime beaucoup cette rune qui nous permet un immense ancrage. C'est d'ailleurs la deuxième lettre dans notre logo, Eywar, quand il est écrit en toutes lettres. Et pourquoi War ? Eh bien, parce que cette idée de guerre est très importante pour nous, non pas, encore une fois, une idée de guerre contre les autres, contre le monde, mais plus une idée de guerre spirituelle contre nos propres limites, nos propres peurs, pour nous donner aussi de la force, nous donner aussi du courage, essayer aussi d'en transmettre au public et à nos auditeurs. Donc ça c'est pour le nom de Eywar, si on peut résumer la chose évidemment de manière aussi synthétique. Et comment s'est formé le clan ? Eh bien avec des bannis, des exclus, des trahis. Et c'est ça à la base, hein. Eywar c'est vraiment à la base Marc et moi. Et nous avons vécu dans nos histoires personnelles des choses qui n'étaient pas forcément facile ou sympa, et on a décidé, si tu veux, de renaître au monde sous la forme de ce clan Eywar, où on accueille justement toutes les personnes qui se sentent pas à leur place dans ce monde qu'on ne comprend pas et qui généralement ne nous comprend pas. Et voilà, si je peux vraiment synthétiser et résumer au maximum, ce serait ça. Évidemment, on pourrait épiloguer pendant 300 pages, mais voilà.
Peut-être à l'intro, oui, de la musique, tu peux expliquer le jaillissement initial.
Oui. Bien sûr. Le jaillissement. Après, ouais, question musicale, parce que là, tu me parlais du clan Eywar, vraiment à proprement parler, mais évidemment, Eywar, c'est avant tout un projet de musique qui a été véritablement, comme le dit Marc, justement, un jaillissement artistique. C'est-à-dire que rien n'a été prévu, rien n'a été planifié, rien n'a été réfléchi. Ça a été vraiment, c'est sorti de nous comme une explosion créatrice qui a eu énormément de pouvoir pour nous, sur nous, pardon. Et en gros, Marc a composé The Forge, la première musique qu'on a postée sur YouTube en quelques heures. Il m'a mis un casque sur les oreilles et il m'a dit « chante ». Et j'avais jamais entendu la musique puisqu'il venait de la créer. Et du coup, en découvrant ces sons, ces battements, cette pulsation comme ça, je suis partie en transe directe parce que c'est quelque chose qui est très, peut-être même trop facile pour moi. et j'ai ces lignes de voix qui sont sorties et ça a été un one shot, c'est-à-dire que voilà, j'ai enregistré une prise et ça a été la bonne, et ensuite on a posté le morceau sur YouTube et ça a explosé tout seul. Donc c'est vraiment quelque chose, si tu veux, qui a été champignonnesque, tu vois, ça pouf, c'est sorti comme ça. Et on a pas eu de réelle volonté de faire ça, ça a juste jailli de nos cœurs et de nos esprits.
Là, votre musique, elle est difficile à décrire parce qu'on peut pas vous mettre dans un. Enfin, il y a un côté pagan hein, qui est forcément là. Mais comment vous pourriez la décrire, votre musique ?
C'est vrai que c'est pas aisé dans le sens où, en effet, on a mixé deux éléments qui sont relativement différents, c'est-à-dire la musique pagan avec les instruments et les sonorités qui nous font vibrer dans cet univers, et des sons très électroniques.
Tout à fait.
Alors, du coup, nous, on se marre en disant que notre musique, c'est un petit peu un mix entre Vardruna, The Prodigy et Lady Gaga. Tu vois ? Après, de manière moins humoristique, tout simplement, Viking War Trans, c'est une chanson, c'est notre album, mais c'est aussi, finalement, l'étiquette qui, à notre sens, colle le mieux à ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, on s'inspire infiniment de l'univers fantasmé de ce que représentent les Vikings pour notre époque. Et le côté war, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette guerre spirituelle qui nous est très très chère, hein, presque nietzschéenne finalement, et trans, parce que ben, y a le côté électro, de trans électro, et la véritable trans spirituelle qui est induite par justement les pulsations qui sont rendues tout à encore plus possible, si je puis dire, avec les basses bien vénères de l'électro. Quoi.
Tout à fait. Voilà. Ah, donc Vardruna fait partie de vos influences musicales nordiques, mais est-ce que vous en avez d'autres, des groupes paganes qui vous influencent en dehors de Vardruna?
Lung, peut-être. Pardon, en réalité, on n'a pas d'influence. c'est un peu difficile de parler de ça parce que, encore une fois, en vérité, ce groupe, il est né dans le cadre de la Nuit des Sorcières.
D'accord.
Où en gros, on a demandé à l'hôte humain de Marc de faire une after-party, si tu veux, pour ces espèces de nouvelles soirées goths, mais version pagane, de créer une after-party dansante après les concerts. Et chose qu'il a essayé de faire tant bien que mal avec les groupes existants, mais on n'a pas trouvé, si tu veux, de musique qui soit assez dansante et assez violente, si je peux utiliser ce terme, pour finir la transe et finir le public un peu, si tu veux. Et du coup, il s'est dit, pourquoi pas la créer nous-mêmes, cette musique. Et c'est comme ça que Ewar est né. Donc, oui, évidemment, on a emprunté quelques codes au pagan, mais encore une fois, si tu veux, c'était pas quelque chose de réfléchi, c'est un truc qui a émergé comme ça. Donc, Vardruna, est-ce une influence? Non.
Peut-être parler d'artistes plus proches de notre démarche électronique, comme Dunheim.
Oui, Dunheim, oui.
Dunheim, haïtien. Et ce genre d'artiste qui a déjà expérimenté la musique électronique dans un mixage avec les sons nordiques. Et à mon endroit, je pense que je suis presque plus influencé par les musiques industrielles, l'Aibar, ce genre de projet, que par la scène vraiment folk.
Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, le côté pagan est induit par le fait que dans les Nuits des Sorcières, c'est quelque chose qu'on aime mettre en avant. Toute l'équipe là de la Nuit des Sorcières avec qui on a réfléchi le projet. Donc forcément, il y a des racines là-dedans, mais on peut pas dire qu'on ait véritablement été inspiré par qui que ce soit, en tout cas en termes de groupe de musique. D'accord. De l'univers viking, de la mythologie et des légendes et des valeurs vikings, oui, mais véritablement musicalement, non. Après, c'est parce que y a peu de groupes qui existent, qui sont vraiment connus dans ce milieu, donc si on veut donner une étiquette, on va forcément donner les grands noms, Vardruna, Ailou, mais vraiment plus Vardruna pour le coup. Mm-hmm. Voilà, mais c'est pas véritablement une inspiration. Quoi.
À mon endroit, à mon niveau de producteur audio, je pense qu'on peut quand même vraiment citer Dunheim.
Oui, Dunheim. Dunheim, c'est vraiment, c'est un petit peu le premier qui a mixé, qui a eu l'idée, si tu veux, de mettre des sidechains comme ça sur des slow singing ou sur des éléments extrêmement paganes comme ça. Donc oui, on peut dire que ça a été une influence lointaine, mais s'il faut en citer une, ce serait plutôt lui.
Mais c'est vrai que la musique industrielle et la musique dark wave est plus présente dans nos influences.
C'est vrai.
De toute façon, à ma connaissance, vous êtes le seul groupe en France qui fait ça. Hein.
Peut-être, je sais pas. Si.
J'ai l'impression aussi de ce qu'on voit, en tout cas, de notre univers musical, des groupes qui évoluent un peu autour de nous. C'est vrai que on est assez ovni.
Agora.
Agora Côte d'Azur.
Côte d'Azur.
We are heavy drops of rain.
personnellement, je suis aussi, je ne sais pas si je peux le dire, mais viking, dans le sens où je fais de l'évocation historique sur des médiévales aussi, donc je suis très ancrée dans ça, donc c'est pour ça que votre musique me parle aussi. Notamment ton chant, Asrun. Je voulais savoir si du coup c'était une langue, ou celle que tu chantes, c'était une langue proche du Vionarwa ou pas.
Alors écoute, pas du tout.
D'accord.
Pour avoir chanté par le passé un peu en Vionarwa, non. Alors l'histoire de nos langages, parce qu'on a vraiment deux langues différentes, Marc et moi. Tout ça sera expliqué dans notre livret de 20 pages. On a eu la chance avec Season of Mist d'être très appuyés au niveau de notre créativité et du coup ils nous ont donné la possibilité de nous exprimer sur ce sujet dans un super livret qui accompagnera l'album. Et parce que aussi nombreuses sont les personnes qui nous posent des questions là-dessus.
Et oui,
ce langage, c'est un langage de transe. C'est-à-dire que quand j'enregistre, c'est souvent en one shot d'ailleurs, c'est vraiment souvent la première prise la bonne, je reçois des mots, je reçois des phrases qui sont celles-là et que je ne peux pas traduire littéralement mais dont je comprends le sens et le message et c'est ça qu'on a voulu traduire dans le booklet, dans le livret.
D'accord.
Pour justement essayer de transmettre, de traduire un petit peu ces langages qui me viennent de plus haut et qui ont un véritable sens. Là, bon, je crois énormément le pouvoir de la parole et des mots et du verbe. Et je pense que si ce sont ces mots-là qui m'ont été donnés, c'est que ce sont ces mots-là qui doivent être chantés et transmis et qu'ils ont un pouvoir propre. Un peu comme les lettres hébraïques, par exemple, dans ces cultures et ces mythologies. Donc voilà, c'est un langage de trans, je ne peux pas te dire mieux.
Il y a tout de même quelques citations norroises. Par exemple, le début d'Yggdrasil commence par Yggdrasil Endurisen, qui veut dire en norrois le renouveau de Yggdrasil.
Tout à fait.
Mais ce ne sont que des citations de noms pour évoquer des situations ou des sagas.
Voilà, c'est vraiment très ponctuel quand on emprunte ou au norrois ou à l'anglais parfois aussi,
oui.
On a quelques citations anglaises.
Tout à fait.
Voilà. Mais la majorité de ce que tu entends, ce langage étrange, voilà, me vient de plus haut, comme j'appelle.
Et nous aurons donc la signification dans le livret, d'après ce que j'ai compris.
Tout à fait. Ouais, ouais. En tout cas, une traduction, en effet, de l'idée, du message, du côté empouvoirant de chaque message. Ouais.
Ben, j'ai hâte d'avoir le disque en physique pour découvrir.
Tu peux déjà avoir une idée dans le message de Sébastien de Season of Mist.
Ouais. D'accord.
Il y a l'explication du texte de Viking War Trance.
Oui, exact.
Tu peux trouver cela sous la forme d'un petit poème.
D'accord.
Dans le communiqué, je
Tout
pense.
Tout à fait, dans le communiqué de presse, oui.
Merci, Marc.
Agora Côte d'Azur.
Oh,
compagnon de scène est très mystérieux. Je me demande vraiment qui se cache derrière ce casque. Mais je pense que tout le monde se pose la question qui est cette personne derrière.
Parce que toi, c'est un drogueur, c'est un zombie viking.
Parce que toi, on voit le bas de ton visage, même si on voit pas tes yeux, mais voilà, lui, il est encore plus mystérieux. Donc,
c'est sûr que... Mais vaut mieux pas voir ce qui se cache sous le casque, parce que moi, je sais.
C'est pas gentil.
S'il prend le soleil, ça fait peur. C'est pour ça que je le couvre de la tête aux pieds.
Ah, mais c'est ça qui participe aussi au mystère de votre musique et de votre duo. C'est ce côté vraiment tout mystique et ça peut faire place à beaucoup de significations différentes et finalement chacun est libre de pouvoir interpréter et puis de laisser son imagination tout simplement. Pour essayer d'imaginer ce que votre vie... Moi, je préfère ne pas vous voir dans une vie au quotidien. Je préfère m'imaginer que vous vivez dans une forêt et que vous êtes en connexion avec les anciens dieux. Tout ça pour rebondir sur ma question suivante. Quels sont vos dieux et déesses nordiques qui pourraient vous être associés ainsi que vos runes?
Je pense pour... Tous les deux, nous avons suivi une voie proche d'une voie de guerre qui est aussi une voie de stratégie, très proche de Odin. Pour Asrun comme pour moi. Asrun que nous avons choisi pour être une nouvelle forme de berserker féminine. Et c'est une voix qui est également associée à Odin.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais précédemment et qui est justement très important dans la démarche de Eywar. C'est que justement, être un monstre, tu vois, et laisser nos autres humains là où ils sont, ça donne justement, à mon sens, tout le sens de ce projet. C'est-à-dire que... Si on laissait nos autres humains apparaître dans leur vie quotidienne, en effet, ça n'aurait plus aucun sens. Eywar, ce sont deux monstres, deux entités qui ont leur histoire, qui ont leur background, qui ont leur pouvoir, qui ont leur force. Et c'est génial que tu le reçoives comme ça parce que c'est exactement la démarche de ce projet. Donc, merci de le recevoir ainsi.
Ah, merci à vous de nous faire rêver. Quand je dis nous, je parle pour le public parce que je vois bien comment le public réagit et... Il n'y a pas besoin d'être en état d'ébriété pour ressentir toute l'intensité et la force de votre musique, en fait.
En tout cas, c'est mon avis. Écoute, vraiment, ça nous touche beaucoup d'avoir cet écho, si tu veux, de personnes qui non seulement aiment et apprécient ce qu'on fait, mais en plus comprennent véritablement la démarche et comprennent l'univers. Donc, pour nous, c'est vraiment c'est extraordinaire, vraiment.
joue un rôle de Volva.
Oui, tout à fait.
Cela la rapproche bien évidemment de Freya.
Bien sûr. Ouais, voilà, je m'en doutais, tu vois. Je m'en doutais.
Ouais, c'est vraiment Odin et Freya. C'est vrai que Odin, c'est une figure qui nous est très chère parce que il a justement ce côté. Comment je pourrais dire, pour vraiment être précise, il a ce côté rebelle, ce côté presque queer, j'ai envie de te dire, tu vois, vraiment, parce qu'il pratiquait le Seizor, etc. Et c'était quelque chose qui lui a été reproché d'ailleurs, et c'est pour ça que certains n'aiment pas Odin et préfèrent Thor, etc. Et nous, on aime justement ce côté. Ce côté audacieux et ce côté très dangereux qu'il peut avoir justement parce qu'il n'a peur de rien et il ne craint personne.
Odin était effectivement très audacieux et il n'avait pas de limite. Il a donné son œil pour avoir la sapience. Il a appris cette magie qui était probablement très mal vue de nombreux mâles à l'époque, le Seizor. Et c'est vraiment un dieu atypique, dieu peut-être probablement à l'époque plutôt vénéré par les seigneurs, le peuple préférant probablement Thor. Mais c'est vraiment un dieu très intéressant, Odin.
Tout à fait.
Il est riche, il est complexe. Et ouais, c'est, on aime beaucoup, beaucoup cette figure. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup Freya, bien sûr, pour tout ce qu'elle représente de nature, de tu vois, de...
C'est un archétype
féminin. C'est l'archétype
féminin,
de le féminin, exactement, mais avec cette,
dans les deux
cette force aussi, tu vois. Donc, ouais, bien sûr, ce sera un mix des deux. Moi, je me sens très proche des deux.
Bah, y a du masculin et du féminin dans les deux, dans les deux déesses, en fait, hein, tout simplement.
Exactement, et je pense que, en tout cas, me concernant, je me sens absolument, absolument pas ou femme ou homme, je me sens véritablement les deux.
Ouais,
je pense que si on a décidé de faire de moi une berserkeresse, si je puis dire, c'est parce que vraiment j'ai la rage du guerrier autant que la. Comment je pourrais dire, la connexion à la nature des femmes et des druidesses et des volvars, tu vois.
Tout à fait.
Agora, Côte d'Azur.
Et du coup, est-ce que vous avez des runes qui vous sont associées à chacun?
Alors, nous avons une binding rune.
Ouais, une rune liée.
Qui est un symbole de notre clan.
D'accord.
Composé de nombreuses runes, plutôt associées à l'ancien Futhark d'ailleurs, qui était pratiqué avant la période viking.
Mmh.
Nous utilisons assez peu les runes du nouveau Futhark pratiqué par les vikings pour le coup.
Mmh.
Mais nous n'avons pas de runes spécifiques. Mmh. Nous aimons beaucoup les utiliser dans les processus de composition, y compris également dans les visuels, pour appuyer les symboliques des morceaux. Mais nous n'avons pas de runes particulièrement associées à l'un ou l'autre.
Ouais. Puis on travaille aussi de manière, enfin, me concernant, moi je travaille aussi beaucoup avec les runes en fonction de ce que je ressens, en fonction de ce dont j'ai besoin, en fonction des messages que j'aimerais recevoir, tu vois, dans mon quotidien. C'est quelque chose qui est assez présent. Mais j'ai pas de rune véritable qui m'est liée, quoi.
Voilà. D'accord, ok. Bon, c'est toujours intéressant de savoir quel rapport vous entretenez avec la culture viking. Et voilà. Vous avez dernièrement fait une expérience qui doit être assez, on va dire, bouleversante. Vous êtes allé au Hellfest.
Oui. Alors ça, c'était un sacré bordel. C'était génial.
C'était génial, mais c'était un bordel, d'accord.
Non, mais c'était surtout le bordel de voir le public comme ça. Enfin, si tu veux, ce qui est incroyable, c'est que ce qu'il faut savoir de cette histoire, quand même, qui est assez, assez dingue, c'est que le Hellfest, en fait, on n'a pas été booké, si tu veux, une semaine avant que le festival n'arrive. Hein, tu vois, c'est pas comme genre là, le motoculteur, c'est ce qui s'est passé. On a remplacé un groupe, donc une semaine avant, on savait pas qu'on jouait au moto. Mais pour le Hellfest, en fait, on a été booké 4 mois seulement après notre tout premier concert et donc 6 mois après l'émergence du groupe. Tu vois ce que je veux dire?
C'est-à-dire
qu'on s'est dit, on va jouer au Hellfest, on a un concert derrière nous. Donc ça, tu vois, en termes de bordel, c'est pas mal. Mais surtout, non, ce qui était absolument extraordinaire, c'est qu'on s'est dit, bon, le Hellfest, c'est quand même le plus gros festival de métal de France. On va forcément avoir quelques fans devant qui seront là, parce qu'ils nous l'ont dit. Mais bon, si on arrive à faire une demi-jauge à la Temple, c'est-à-dire 5000 personnes, on sera trop contents. Le truc, c'est que ben, avant de monter sur scène, quand notre drone d'intro démarre, là, on a une foule qui se met à hurler. Donc, on a juste halluciné. On s'est dit, mais enfin, ils sont combien? Et au moment où on est rentré sur scène, on s'est rendu compte que la Temple, elle débordait. Quoi. Il y avait genre 12 000 personnes. C'était la folie.
Bah,
ouais. Et on s'est dit, bon, ben, écoute, ça va être un bon concert. On va passer un bon moment. Et en effet, ça a été le cas. Ça a été la branlée. On s'est vraiment régalé. Et le public a surréagi. Enfin, vraiment, il y a une communion, si tu vois, à ce moment-là. Là, moi, tu vois sur toutes les photos, j'ai la tronche, j'ai un sourire jusqu'aux oreilles, c'est l'éclat total. Parce qu'on a vraiment été reçus hyper chaleureusement et ça a été la teuf, quoi. Enfin, tu vois, 11h du matin, on s'est dit au petit-déj, il n'y aura personne, tu parles, il y avait 12 000 personnes, quoi. C'était la folie. Donc, bref, c'était une expérience bouleversante. Moi, j'ai mis à peu près 3 jours à m'en mettre. J'ai eu le hell blues pendant une semaine.
Il paraît que.
J'avais trop envie d'y retourner, quoi.
Il y a la déprime post-fest, Hellfest, apparemment. Ça fait sacher tout le monde.
Non mais c'est ça, c'est le postpartum, tu vois.
Le post-Hellfest.
Ah ouais, non, c'était génial, c'était extraordinaire. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça du tout. Donc ça a été la méga surprise. On s'attendait à passer un bon moment parce que forcément, je veux dire, quand tu foules cette scène légendaire, t'es juste, tu passes, voilà, c'est sûr, tu passes un bon moment. Mais alors là, quand ça se passe comme ça, c'était magnifique et magique. Et encore merci à toutes ces personnes qui étaient là et qui ont vécu ce grand moment de communion avec nous. C'est plein de gratitude, vraiment.
Il y a quand même beaucoup de vos concerts qui sont complets. Comment vous expliquez un tel succès?
Je pense que beaucoup de personnes en France, peut-être en Europe aussi, je ne sais pas, écoutent la musique pagane. Mais il y a très peu
de festivals,
de propositions,
tout à fait.
De live, très peu de groupes. Si tu as la chance de voir Heilung ou Vardruna une fois tous les ans ou tous les 2 ans dans une grande ville de province, c'est un maximum.
C'est
ça. Et au-delà de ça, il y a très peu de choses.
Ouais.
Je crois que nous avons beaucoup, vous avez eu beaucoup de chance de participer à la Nuit des Sorcières,
ouais,
qui a été un moment 13 underground alternatifs où les communautés ont pu se retrouver pour faire la fête, mais vraiment de manière très amicale, sans, comment dire, sans grande structure mercantile. C'était vraiment quelque chose de très underground. Et nous avons beaucoup de chance de voir notre projet naître dans ce cadre. Et je crois que les gens ont été très heureux qu'il y ait des événements pour se retrouver dans, au sein de cette communauté.
Tu vois, si je peux ajouter quelque chose, Céline, pour rebondir sur ce que dit Marc et qui est très juste, c'est qu'on nous a souvent fait la réflexion, à nous et à au reste de l'équipe de la Nuit des Sorcières, que cet événement, c'était un petit peu le revival des soirées goths des années 90-2000. Dans un autre, si tu veux, comme si le mouvement gothique, qui s'est malheureusement un peu épuisé en France, même s'il est encore vivace, par exemple, en Allemagne et dans d'autres pays, il est quand même assez moribond en France. Et du coup, c'est parti, le goth a viré vers le pagan, j'ai l'impression. T'as quand même beaucoup aussi de métalleux qui écoutent du pagan également. Et donc, il y a énormément de néo-witch, de nanas, tu vois, qui n'ont pas forcément d'événements dans lesquels se retrouver, faire la fête, danser pieds nus sur le sol et laisser exploser comme ça cette espèce d'énergie ensemble. Et je pense aussi que le fait de donner la possibilité à ces gens un peu oubliés dans la culture de se retrouver tout simplement et de faire la fête et d'avoir des événements dans lesquels ils peuvent être pleinement eux, se déguiser, s'habiller comme ils veulent, être vraiment leurs entités, leurs monstres à eux, tu vois. C'est un espace de liberté qui, je pense, fait le succès aussi, tu vois, de ces événements et a posteriori de nos concerts, quoi.
Thank you.
AWAR, c'est vous deux, mais AWAR, c'est aussi un clan. Est-ce que vous verriez intégrer d'autres membres? Et si oui, comment?
La vérité est que nous avons déjà beaucoup de personnes adorables qui travaillent avec nous.
D'accord.
Je crois que, bien sûr, nous formons une sorte de noyau. Mais il y a toute une équipe, notamment avec le label Season of Mist, qui travaille avec nous depuis les Amériques, le Pays-Bas et aussi une équipe à Marseille. Et puis il y a aussi tous les amis qui nous retrouvent au concert et que nous rencontrons, qui suivent notre musique, qui font d'une certaine manière maintenant partie du clan aussi.
Du clan.
Ouais, ce que tu veux dire, Marc, c'est qu'en gros, ce sont des cercles concentriques, un petit peu comme quand tu lances un caillou dans une mare, tu vois. C'est que y a le caillou, c'est nous deux, et autour il y a différents cercles et différentes strates et différentes couches qui font la totalité du clan AWAR. Et nous, on est tellement heureux de voir que les gens portent notre médaillon ou de croiser des gens dans des festivals avec notre t-shirt et tu vois, et tout ça, c'est on trouve que c'est hyper joyeux et très empouvoirant justement de savoir que ces personnes-là se retrouvent dans notre clan, se retrouvent dans notre philosophie, se retrouvent dans notre message, dans notre volonté, tu vois, d'être en lien, d'être libre, de nous exprimer tel qu'on le souhaite. Et tu vois, c'est voir cette espèce d'immense clan qui fait des petites ramifications partout dans le monde, parce que justement ils sont d'abord touchés par une musique, mais peut-être plus aussi, tu vois, peut-être que ça leur donne, comme tu disais au début de l'interview, de la force, de la confiance, c'est tout ce dont on aurait pu rêver, tu vois, d'avoir cette espèce de grand lien qui nous unit et autour d'une cause qui est belle, qui est la musique et la joie et l'expression primaire et primitive du mouvement, de la voix, de l'art, de la force, de la rage, de la colère et d'accueillir tout ça, quoi, finalement.
En tout cas, merci d'exister.
Écoute, merci à toi de nous recevoir et de recevoir ce qu'on a à proposer.
Pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous véhiculez et puis finalement pour tous les gens qui sont comme vous, c'est-à-dire des gens incompris. Et vos concerts finalement permettent de nous réunir et de communier ensemble, et merci pour ça, quoi.
Écoute, c'est exactement ça. Donc merci encore une fois de savoir le recevoir et de savoir l'entendre. J'ai été très touchée par un commentaire sur YouTube il y a pas longtemps, en dessous de Viking Noir Trans, d'une personne qui a cité, alors je sais plus de qui est cette citation, mais c'est en gros ceux qui dansaient étaient pris pour des fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. Et ça me fout des frissons, tu vois, rien d'y penser. Et c'est Nietzsche dans Zarathustra. Ok, bon, moi j'avais oublié ce passage. Mais c'est magnifique, tu vois. Encore Nietzsche, hein, il est partout. Il est partout dans notre démarche. Et c'est vraiment ça. C'est quand les incompris, les bannis, les trahis, les deux guingois, les deux travers dans leur vie, tu vois, s'ils se sentent. S'ils sont appelés et s'ils se sentent bien dans le fait de créer ce grand clan, on aura tout gagné, quoi. Voilà, tout simplement.
Pour moi, vos concerts, c'est un appel un appel de ralliement de la meute, en gros, c'est ça, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout, ce que j'aimerais vraiment qui transpire dans nos concerts, c'est le fait que comme je m'autorise, et comme Marc aussi s'autorise, mais s'il est plus dans l'ombre, à véritablement vivre l'instant. Et comme je dis, moi, je danse ma colère, tu vois. Mon autre humaine, elle est très en colère, encore une fois, parce que je t'ai dit, elle se sent incomprise dans ce monde, elle ne comprend pas le monde qui l'entoure. Et je suis là, si tu veux, à Sroun, moi, comme une espèce de processus de survie pour cette personne. Et le fait de danser sa colère, et de danser ma colère, et d'exprimer ma rage, et d'exploser, finalement, tu vois, sur scène, c'est quelque chose qui, j'espère, transpire et atteint les gens. Et ce que j'aimerais, c'est que, justement, dans un concert de AWAR, les gens s'autorisent eux-mêmes à vivre leur colère et à vivre leur déception ou leur joie ou tout, en fait, ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer et qui crée ces raideurs dans notre mental, aussi dans notre corps, tu vois. Et de se libérer, en fait, tous ensemble de cette rigidité globale.
Eh bien, je ne sais pas pour le reste du public qui était présent à la nuit de la sorcière, mais en tout cas, moi, j'ai tout lâché à ce soir-là, ça c'est clair. D'ailleurs, je ne sais pas, tu m'as pas vu au premier rang.
Excuse-moi, j'ai pas entendu, j'ai été coupée.
Si tu m'as pas vu au premier rang, comme j'étais en transe, j'étais plus là, quoi. J'étais avec vous, en fait.
Ouais, bah, j'avoue que tu sais, moi, quand je suis sur scène, je suis profondément en transe. Ouais,
bien sûr.
Donc, je n'ai pas trop les gens, de ce qui se passe sur l'instant.
Ouais, je comprends.
Voilà, avant de monter sur scène, je me connecte à plus haut.
Ouais, c'est normal.
Voilà, je dis aux forces autour de moi, utilisez-moi comme un outil. Allez-y, si vous avez des messages à transmettre, si vous avez de l'énergie à transmettre. Utilisez-moi. Et donc, je pars très très loin et donc j'ai pas trop conscience de ce qui se passe en face de
c'est
moi,
grave.
À vrai dire.
C'est pas grave.
Donc,
t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que on ait pu juste vite un peu se croiser, mais que on ait pu faire cette interview pour annoncer vos dates de concert. Alors, au mois de septembre, vous allez repasser dans le sud.
Je crois que c'est Brune-sur-Argent,
c'est
si
ça.
Je me souviens bien.
Ouais.
Saint-Raphaël.
Ouais,
c'est ça, Saint-Raphaël. Exact. C'est le 28 septembre, je crois, il me semble.
Ouais, tout à fait. C'est le Distorsion Festival,
Tout à fait. Et après, bien sûr, il y aura les Peines Mirabeau en mois d'octobre, qui sera encore la Nuit de la Sorcière. Voilà, partie 2.
Ça va être super. Ça va vraiment être une super fête. Et après, on a plein d'autres dates qui vont être annoncées, mais elles ne sont pas encore, annoncées publiquement. Donc,
dans le sud de la France aussi
Non, ce sera...
C'est possible qu'il y ait des dates enfin aussi au mois de décembre.
Exact, oui.
Bon, on va guetter ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé. Je vous ai un peu tenu 30 minutes quand même.
Mais, c'est nous qui te remercions.
Mais vous êtes tellement, vous êtes tellement mystérieux et intrigant qu'il fallait absolument que je vous pose toutes ces questions pour que le public il puisse vraiment vous découvrir et que ça leur donne envie de...
Merci à toi, bon courage et à bientôt peut-être dans une prochaine Nuit des Sorcières.
J'ai déjà ma place pour les Peines Mirabeau. Je viendrai peut-être au mois de septembre aussi à la Distorsion et en tout cas merci encore à vous, à Asroun et Marc, et puis je vous souhaite plein de très très bonnes choses, plein de bonheur, plein de joie et plein de concerts.
Merci infiniment.
Merci.
Salut,
merci.
À très bientôt alors.
Merci. Ciao, ciao.
Ciao.
Agora Côte d'Azur. crown on your stone. You would marry me, oh, you would marry me, and claim my heart as your own. I would agree, oh, if you were a troll, not a knight of the cross so cold. I won't be a slave to your morality, nor shall I bend the knee. Slave to your morality, nor shall I bend the knee.